Il est 15h ici à Paris, 9h à Port-au-Prince, 8h à Quito. RFI Midi, la dernière demi-heure sur le continent américain avec de grandes actualités à la une. La mort de l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa à l'âge de 89 ans. Le dernier des géants de la littérature latino-américaine. On reviendra sur sa carrière dans un instant. Et puis l'autre grosse information, c'est la réélection de Daniel Noboa en Équateur.
Esta victoria ha sido histórica también.
Une victoire historique, dit Daniel Noboa. Nous serons en direct de Quito et puis on analysera ces résultats avec Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine. À suivre aussi l'actualité des Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
Nous irons en Guyane avec les élus qui contestent encore et toujours les chiffres du recensement de l'INSEE, des chiffres que ces élus estiment largement sous-évalués.
Et rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord le journal. C'est avec Karine Bellicha et direction Karine, le continent américain, pour débuter le journal avec les résultats de la présidentielle en Équateur.
Oui, on l'évoquait, la victoire est large pour le président sortant, connu pour sa politique sécuritaire répressive épinglée par les ONG. Daniel Noboa l'emporte avec 56% des voix, mais l'opposition ne reconnaît pas sa défaite. La rivale de gauche du président, l'avocate Luisa González, dénonce une fraude électorale massive. On l'écoute.
Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira.
Je refuse de croire qu'il existe un peuple qui préfère le mensonge à la vérité, la violence à la paix et à l'unité. Nous allons demander un nouveau décompte et l'ouverture des urnes. Les autorités ont abusé de leur pouvoir et elles ont utilisé le Conseil national électoral et le tribunal électoral pour faire ce qu'elles voulaient. Pourquoi ? Afin de légitimer la fraude électorale la plus grotesque qu'on ait jamais vue en Équateur.
Luisa González au micro de Raphaël Moran, envoyé spécial de RFI.
Pendant ce temps, c'est un allié que Donald Trump va recevoir aujourd'hui à la Maison-Blanche.
Le président du Salvador, Nayib Bukele, fait le déplacement à Washington. Tous deux sont sur la même longueur d'onde, notamment sur la question des expulsions d'immigrés sans papier. Nayib Bukele a accepté l'incarcération dans la méga-prison qu'il a fait construire au Salvador de 250 Vénézuéliens expulsés des États-Unis.
En pleine guerre douanière avec Washington, Xi Jinping lui entame une tournée en Asie du Sud-Est.
Première étape, le Vietnam. Le président chinois est formel. Le protectionnisme ne mène nulle part. Son but est de renforcer les relations commerciales et diplomatiques de Pékin avec les pays de la zone. D'ailleurs, les exportations chinoises ont bondi de plus de 12% le mois dernier. Un chiffre qui s'explique par le contexte. Les fabricants chinois se sont précipités pour conclure des échanges avant l'entrée en vigueur des surtaxes astronomiques infligées par Donald Trump. Les explications d'Agnieszka Kumor.
En mars, les entreprises chinoises ont expédié pour plus de 313 milliards de dollars de biens, dont 40 milliards vers les États-Unis, en hausse de 9%. L'envolée des ventes de produits chinois à l'étranger a surtout été tirée par les exportations vers la Thaïlande, qui ont bondi de plus de 27%, et celles vers le Vietnam, en progression de 19%. La région de l'Asie du Sud-Est est souvent utilisée par les exportateurs chinois comme une plaque tournante pour échapper aux sanctions de Washington. Plusieurs secteurs chinois profitent de cette hausse des ventes à l'étranger, notamment la construction navale, l'électroménager, les produits électroniques et les voitures. En parallèle, les importations chinoises ont chuté de plus de 4%, à commencer par les produits agricoles, comme le soja qui accuse une chute à deux chiffres. Selon les experts, ce sont les entreprises publiques qui auraient reçu l'ordre de Pékin d'arrêter les importations.
Agnieszka Kumor du service éco de RFI.
Et après le Vietnam, Xi Jinping se rendra en Malaisie et au Cambodge.
Et avant son arrivée, Phnom Penh s'est dépêché d'expulser des ressortissants chinois et taïwanais vers Pékin. Ils sont soupçonnés d'avoir travaillé dans des centres de fraude en ligne. Un geste en direction de Pékin qui a déclenché la colère de Taïwan. Heike Schmidt.
Le Cambodge est l'un des alliés les plus fidèles de la Chine en Asie du Sud-Est. Et pour que cela reste ainsi, Phnom Penh a tout intérêt à se plier aux ordres de Pékin, surtout à la veille de la visite ce jeudi du président chinois Xi Jinping. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a beau accuser le Cambodge de céder à la pression, rien n'y fait. Phnom Penh a fait la sourde oreille aux appels de Taïwan de renvoyer les suspects taïwanais vers Taipei. D'autant que le Cambodge ne reconnaît pas Taïwan. Selon un communiqué du ministère taïwanais, 180 Taïwanais ont été arrêtés récemment dans un centre d'arnaque en ligne à Phnom Penh. Certains auraient été expulsés vers la Chine dimanche et tôt ce lundi. C'est loin d'être une première. Entre 2016 et 2024, plus de 600 Taïwanais suspectés d'activités illégales à l'étranger ont été expulsés vers la Chine. Pékin dit vouloir lutter contre le fléau des centres de fraude en ligne qui emploient des centaines de milliers de personnes à travers toute l'Asie du Sud-Est.
Heike Schmidt.
La Russie se justifie après l'attaque meurtrière de Soumy en Ukraine.
Le Kremlin dit avoir frappé une réunion de l'armée ukrainienne dans la ville. Kiev est accusé par Moscou d'avoir utilisé des civils comme boucliers humains dans une zone densément peuplée. L'attaque a fait 34 morts et une centaine de blessés. Le cessez-le-feu proposé par Washington en mars, accepté par Kiev, est resté lettre morte face au refus de Moscou. Et de nouveau, aujourd'hui, 4 civils ukrainiens ont été tués dans des frappes russes à Kharkiv, au sud de Soumy.
Et puis en matière d'environnement à présent, Karine, on va évoquer le fonds de réponse aux pertes et préjudices.
Face à la multiplication des catastrophes dues au règlement climatique, ce fonds attire l'attention des pays du Sud. Il a été créé lors de la COP28 à Dubaï et son objectif est simple, soutenir les pays vulnérables après une catastrophe climatique pour se relever des conséquences du réchauffement, mais aussi pour s'y adapter. Juliette Pietraszewski nous a rejoint pour en parler. Bonjour Juliette.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Il y a quelques jours, à la Barbade, se tenait la 5e réunion du conseil d'administration du fonds Pertes et Préjudices. Il va désormais décaisser ses premiers dollars américains, à savoir 250 millions pour la phase de démarrage. Derrière cette enveloppe annoncée, une première série d'interventions est prévue à la fois pour 2025, pour cette année, et pour 2026, Juliette.
Oui, l'argent est destiné en priorité aux petits États insulaires en développement et aux pays les moins avancés. Des subventions de 5 à 20 millions de dollars par projet. Mais rien que pour 2025, les besoins en lien avec les catastrophes climatiques sont estimés, Karine, à 395 milliards de dollars américains pour les pays en développement, selon un réseau de spécialistes. Tosim Panupanu est négociateur climat de la RDC et membre suppléant du conseil d'administration du fonds de réponse aux pertes et préjudices.
Les besoins sont réels, le financement des ressources à disposition sont bien en deçà, ce qui équivaut à dire que les pays en développement, victimes d'un changement climatique qu'ils n'ont pas créé, sont en fait les premiers financiers de l'action climatique chez eux. Le fonds pour les pertes et préjudices, 700 millions d'engagements, dont il n'y a environ que 300, 340 millions qui ont effectivement été décaissés, mais tout ça en fait mine la confiance mutuelle qui devrait caractériser les discussions multilatérales sous l'égide de la Convention climat.
Et cet argent ne fait pas tout. Le Conseil du Fonds Pertes et Préjudices invite aussi les États à mieux se préparer sur le long terme.
Juliette Pietraszewski du service environnement de RFI.
Et c'était le journal de Karine Bellicha. Merci beaucoup.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
On a donc appris cette nuit la mort du grand écrivain péruvien Mario Vargas Llosa. Il s'est éteint au Pérou à l'âge de 89 ans. A prix Nobel de littérature en 2010, membre de l'Académie française et de l'Académie royale espagnole, il était considéré comme le dernier des géants de la littérature sud-américaine. Bonjour Olivier Roger.
Bonjour Clotilde, bonjour à toutes et à tous.
Mario Vargas Llosa qui laisse une œuvre considérable derrière lui, une quarantaine d'essais, de romans et de pièces de théâtre.
Et on y trouve des textes autobiographiques comme La ville et les chiens, relatant son passage à l'Académie militaire où son père l'avait envoyé de force, ou encore La tante Julia et le scribouillard qui raconte sa fuite avec sa tante de 15 ans son aîné. On y trouve aussi bon nombre de satires politiques, comme La Fête au Bouc, une magistrale plongée dans le régime sanglant du dictateur dominicain Rafael Trujillo. Vargas Llosa a tâté de tous les genres, épique, sensible, libertin même. Fresque historique relisait la guerre de la fin du monde sur le mouvement anti-républicain au Brésil. La littérature était pour lui bien plus qu'un art, c'était une manière de façonner l'esprit et donc de façonner le monde. Écoutez ce qu'il en disait en 2009 sur RFI au micro de Sophie Écoué.
Je crois que la littérature vous donne une vision de ce qui manque dans le monde réel pour devenir si parfait, si cohérent, si profond, si subtil. C'est la raison pour laquelle tous les régimes autoritaires ont essayé toujours de contrôler la littérature.
Alors Vargas Llosa, il a vécu, Olivier, des années en France et c'est, disait-il, la France qui a fait de lui un écrivain.
Il a compris deux choses en arrivant à Paris dans les années 60. D'une part, qu'il appartenait à un mouvement littéraire plus vaste que le Pérou. Ce mouvement, c'est le roman latino-américain, empreint de réalisme magique. À Paris, il se lie d'amitié avec les grandes figures de ce courant, comme Gabriel Garcia Marquez. Et puis, il a compris, dans cette ville devenue sa ville de cœur, que la littérature française avait cette capacité d'influencer l'histoire. Il songeait notamment à Victor Hugo et à son roman Les Misérables. Et c'est peut-être ce qu'il a toujours recherché à travers son œuvre.
C'était aussi un passionné politique, hein, Vargas Llosa, qui a été critiqué tardivement pour ses engagements en faveur de candidats populistes.
Oui, communiste dans les années 50, castriste ensuite, il est peu à peu devenu libéral, passionné de politique, il fut même candidat à l'élection présidentielle du Pérou en 1990, perdant de peu face à Alberto Fujimori, grand défenseur de la démocratie. Il s'était cependant rapproché de l'extrême droite ces dernières années, suscitant là l'incompréhension d'une grande partie de ses admirateurs.
La carrière de Mario Vargas Llosa, résumée par Olivier Roger. La presse latino-américaine évoque évidemment la mort de l'écrivain. Bonjour Juliette Chénion.
Bonjour.
Les articles sont unanimes.
Oui, au Pérou, d'abord El Comercio, un journal pour lequel Mario Vargas Llosa écrivait, regrette dans une une en noir et blanc la mort du péruvien le plus universel, le plus grand écrivain du Pérou. La Republica se fait-elle écho des très nombreux hommages publics et internationaux au dernier écrivain du boom latino-américain. Le romancier politique le plus intelligent, écrit de son côté le New York Times, quand la Tercera au Chili souligne le parcours politique controversé de l'écrivain. En Colombie, enfin, le journal El Tiempo revient sur sa dispute avec le prix Nobel Gabriel Garcia Marquez. Mario Vargas Llosa l'avait frappé à la fin des années 70, mettant ainsi un point final à leur amitié.
Et vous restez avec nous, Juliette, pour la suite de cette revue de presse. L'autre actualité à la une sur le continent américain, c'est la victoire de Daniel Noboa en Équateur. Le président sortant réélu avec 56% des voix face à Luisa González, la candidate de gauche, qui ne reconnaît pas ses résultats et qui demande un recomptage des voix. On retrouve Raphaël Morane en direct de Quito. Raphaël Morane, donc on va retrouver dans un instant pour peut-être prendre l'ambiance. Hein, d'abord, Raphaël, dans la capitale, après donc cette victoire de Daniel Noboa, les Équatoriens qui ont visiblement approuvé la ligne dure du président en matière de sécurité.
Oui, à l'annonce des résultats hier, les partisans du président Noboa ont fait la fête dans les trois grandes villes du pays avec une victoire de plus de 11 points sur sa rivale de gauche, Luisa González. Et Daniel Noboa, 37 ans, entrepreneur et membre de la famille la plus riche du pays, s'impose largement dans les urnes. Il a gagné 1 200 000 voix entre les deux tours, ce que personne n'avait anticipé. Les résultats sont surprenants. Oui, ses électeurs apprécient sa politique de main de fer contre le narcotrafic qui met une partie du pays à feu et à sang. Le rejet politique du courant politique de gauche de Luisa González, le coréisme, a pu compter aussi. Il ne faut pas oublier non plus que Noboa a bénéficié des largesses de l'État pour sa campagne. Il a saturé les chaînes de télé de spots gouvernementaux vantant sa politique. Et certains analystes se demandent enfin si sa politique du carnet de chèques a pu compter aussi. Le président Noboa a distribué 14 aides différentes, des aides financières depuis le début de l'année, des chèques ponctuels de quelques centaines de dollars destinés aux jeunes, aux victimes de catastrophes naturelles ou bien aux militaires.
De son côté, Luisa González, elle conteste les résultats de ce second tour. Pour quelles raisons, Raphaël, est-ce qu'il y a un doute sur la régularité du scrutin ?
Alors, le Conseil national électoral, selon le Conseil national électoral, le scrutin s'est déroulé sans accroc. Les observateurs internationaux de l'Union européenne et de l'Organisation des États américains n'ont pour l'instant pas remarqué d'irrégularité, mais des proches de Luisa González assurent que certains procès-verbaux électoraux ont été validés alors qu'ils n'étaient pas signés par les responsables des bureaux de vote. La candidate accuse également le président d'avoir décrété l'état d'exception contre la criminalité dans 7 provinces du pays. La veille du vote, une présence militaire de nature à intimider les électeurs, dit-elle. La présidente de l'autorité électorale a rappelé pour sa part que pour recompter les voix, il faudra prouver l'existence d'erreurs chiffrées.
Raphaël Moran, en direct de Quito pour RFI. On continue d'analyser ces résultats en Équateur avec Christophe Ventura. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, spécialiste de l'Amérique latine. C'est vrai que la nette victoire de Daniel Noboa est un peu surprenante, hein, puisqu'on se rappelle qu'au premier tour, les résultats étaient très serrés avec Luisa González, l'héritière en quelque sorte de l'ancien président Rafael Correa. Est-ce que justement cette défaite montre, selon vous, Christophe Ventura, peut-être un sentiment anticoréiste encore très présent finalement en Équateur ?
Oh ben ce sentiment, il existe et il préexistait aux résultats d'hier. Hein. Il est clair qu'en Équateur, dans un contexte global de ce pays qui est quand même très compliqué et très détérioré à tout point de vue, sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan économique, un pays qui connaît un appauvrissement croissant depuis des années, enfin bref, un pays très compliqué du point de vue social. De toute façon, sur le plan politique, c'est clairement un pays qui est polarisé, puisque ce qu'on appelle le coréisme, qui est, disons, grosso modo, le mouvement du centre-gauche et de la gauche en Équateur n'est plus majoritaire, mais il représente toujours la force politique la plus importante du pays de manière minoritaire, relativement minoritaire. Et depuis très longtemps, le pays est très polarisé. Cette élection s'est jouée une nouvelle fois dans ce contexte-là. Et c'est vrai que les résultats, ma foi, personne aujourd'hui peut avoir un avis définitif sur la question. On va voir ce que va donner la bataille juridique pour le recomptage des voix qui, comme l'a dit votre journaliste, va être en fait très compliqué parce que le Conseil national électoral, réduit la possibilité d'un recomptage en fonction de conditions très très strictes et très limitées. Donc c'est pas du tout gagné que le CNE, donc le Conseil national électoral, accepte le recomptage qu'exige la candidate malheureuse. Donc ça, il va falloir suivre ça, mais en tout cas, il est sûr que les résultats ne correspondent ni dans un sens ni dans un autre à ce qui était attendu. C'est au moins ce qu'on peut dire. Mmh. On pensait que le résultat allait être soit très, très étroit, à l'image du premier tour, vous l'avez dit. Madame Luisa González, finalement, ne fait que le même score, quasiment le même qu'au premier tour. Donc c'est vrai que ça voudrait dire que personne d'autre, n'a pas eu une voix de plus au premier tour, ça c'est atypique en tout cas. Et d'autre côté, les coréistes pensaient plutôt qu'ils allaient gagner de peu, mais que Noboa refuserait le résultat. Et en fait, on se retrouve avec une victoire officielle très très large de Monsieur Noboa. Et c'est vrai que ça interroge. Aujourd'hui, on peut pas dire plus que ça, mais en tout cas, c'est le signe d'une élection qui ne résout pas la crise politique en Équateur, sur fond, encore une fois, de dégradation très forte des questions économiques, sociales et sécuritaires avec le narco. Et donc, de nouveau, cette polarisation que vous évoquez va continuer. Et aujourd'hui, c'est un pays qui ne trouve pas, qui ne reconstruit pas, disons, un consensus politique. C'est le moins qu'on puisse dire.
Pour creuser un petit peu ce que vous disiez, Christophe Ventura, sur le fait que voilà, Luisa González conteste donc ses résultats, que ça va être très compliqué, est-ce que ça veut dire que pendant cette période un petit peu d'incertitude, on peut craindre une déstabilisation davantage encore du pays qui, vous le disiez, est déjà dans un contexte très compliqué ?
Bah, tout est possible. Il y a des forces qui vont être en action. Vraiment, moi, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer, mais il est clair que d'un côté, quand vous avez un pays où le président déclare l'état d'exception dans 7 des 24 provinces avant le vote, en s'appuyant sur les lois anti-narco et le fait qu'il faut se rappeler, pour celles et ceux qui nous écoutent, que M. Noboa a déclaré son pays en état de conflit armé interne l'année dernière, en 2024, ce qui donne quasiment tous les droits possibles au niveau constitutionnel pour en gros suspendre partiellement ou totalement les libertés individuelle et publique hein, dans ce pays. Il a quand même cette possibilité-là, il a ce levier, donc il y a ça d'un côté, il y a la capacité d'engager une répression politique s'il le souhaitait, ou policière face à des manifestations, des mobilisations, et de l'autre, bah, il y a effectivement comment vont réagir le parti, le mouvement, les électeurs, les partisans de Madame Luisa González. Est-ce qu'ils vont considérer qu'il y a trop de risques à prendre la rue dans ces conditions-là pour eux, pour la population, etc. Est-ce que, au contraire, ils vont penser qu'il y a que des mobilisations de rue qui peuvent mettre la pression sur Noboa? C'est les termes des prochaines heures et peut-être des prochains jours sur place. Mais à l'heure où on se parle, je pense que tout le monde sous-pèse un petit peu cette situation parce qu'effectivement, le pays est quand même largement inflammable. En plus, beaucoup de territoires sont maintenant contrôlés par le narco. Et là aussi, on ne sait pas les narcos pour qui ils votent. Certainement pas pour Mme González, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à M. Noboa et puis aux forces de police et forces de sécurité militaire? Est-ce que eux leur intérêt c'est que l'ordre règne dans le pays ou que le désordre s'installe? Ce sont des questions ouvertes pour l'instant, mais ce sont certainement des questions qu'il faut avoir en tête pour suivre ce qui va se passer en Équateur.
Et lui, Daniel Noboa, qu'est-ce qu'il peut faire justement face à ces narcotrafiquants? Pour rappel quand même, on parle désormais d'un homicide chaque heure en Équateur hein, depuis le début de l'année. Il a pourtant déjà mené une politique assez dure quand même contre la violence qui règne dans le pays. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant?
C'était l'un des enjeux de cette élection. Ce qu'il veut faire de plus, grosso modo, c'est de modifier la constitution de l'Équateur pour permettre l'ouverture de bases militaires étrangères. En fait, ça fait référence à l'histoire il y a une quinzaine d'années dans le pays où des bases, en particulier celle de Manta, étaient occupées par les Américains, par les soldats américains, justement à l'époque déjà dans le cadre de la lutte anti-drogue. Et donc, l'idée de M. Noboa, dont il faut rappeler qu'il se sent assez proche de M. Trump et qu'il était à sa prise de fonction le 10 janvier dernier, il faisait partie des quelques présidents étatsunidiens qui étaient sur place. Il souhaite modifier la constitution pour que des bases, en particulier celle de Manta, puissent être rouvertes et accueillir des soldats ou en tout cas des forces de sécurité américaines, peut-être celle de la Drug Enforcement Administration, donc de l'Office anti-drogue, etc. Et il prône en fait des accords de coopération très rapprochés avec les États-Unis pour appliquer en Équateur, ou en tout cas accélérer, renforcer la stratégie qui est bien connue, qui est celle qui a été utilisée au Mexique, aux États-Unis ou sous un autre nom en Colombie, qui est la guerre contre les drogues, c'est-à-dire la militarisation de la lutte contre le narcotrafic. Le problème, c'est que jusqu'à présent, depuis que cette stratégie a été mise en place, bien sûr, elle a eu des résultats au coup par coup, elle a démantelé des cartels, elle a pu arrêter, faire augmenter les saisies, mais elle n'a jamais arrêté le narcotrafic comme phénomène. Au contraire, le résultat, c'est que jamais le narco s'est porté aussi bien dans toute l'Amérique latine désormais, et malheureusement l'Équateur est rentré dans cette spirale et il est fort à parier que cette politique va enfermer l'Équateur pour des années et des années dans ce problème, parce que la question de la gestion du narcotrafic ne se limite pas à des politiques de destruction ou de décapitation des cartels, ça pose énormément de questions en matière de politique de santé publique, etc., qui ne sont pas du tout prises en compte dans la manière de lutter contre ces organisations criminelles.
Merci beaucoup Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de l'Amérique latine. Alors Daniel Noboa, on le disait, il entretient des liens plutôt rapprochés avec Donald Trump et ça rappelle aussi un petit peu le cas du président du Salvador, Nayib Bukele. Juliette, il est reçu ce lundi à la Maison Blanche en pleine polémique autour du cas de ce Salvadorien expulsé par erreur des États-Unis, cas particulier qui continue d'ailleurs de faire la une de la presse américaine.
Le ministère de la Justice dit qu'il n'est pas obligé de ramener le migrant expulsé par erreur au Salvador, explique en effet le Washington Post. Le journal détaille comment l'administration Trump interprète en sa faveur la décision de la Cour suprême. Pour le gouvernement, faciliter le retour de Kilmar Abrego Garcia ne reviendrait en fait qu'à retirer les obstacles nationaux à ce retour, et ça uniquement si le Salvador décidait de lui-même de libérer ce migrant. Ces affirmations ouvrent la voie à un nouveau test de la capacité du pouvoir judiciaire fédéral à maîtriser une administration qui s'était forcé d'étendre de manière agressive son pouvoir exécutif, commente le Washington Post.
Les médias américains qui suivent de près la politique migratoire du président Trump.
Oui, le New York Times, dans une longue enquête, décrit par exemple comment le gouvernement utilise l'application d'une entreprise pénitentiaire privée pour surveiller les migrants et faciliter leur arrestation. Quant au Washington Post, il révèle que la détention et la révocation du visa de la doctorante étrangère Rumeysia Özturk n'est fondée sur aucune preuve d'antisémitisme ou d'apologie du terrorisme, contrairement à ce qu'avait affirmé le gouvernement. On apprend de plus cette fois-ci dans un reportage fouillé de ProPublica que la jeune femme est aujourd'hui retenue dans une prison de Louisiane.
RFI, la radio del mundo.
Allez, direction l'Argentine maintenant, Juliette, où la presse met à la une la fin des restrictions d'achat de dollars pour les Argentins.
Le gouvernement cherche à détourner l'attention de ce premier jour sans restriction des taux de change et préfère insister sur sa rencontre avec Scott Bessent, secrétaire du Trésor américain, analyse La Nation. En Argentine, le dollar est désormais flottant entre 1000 et 1400 pesos. Pas de quoi entraîner de l'inflation, se sont échinés à démontrer le président Milei et ses proches ce week-end, usant de longs tweets et de démonstration sur papier, comme le rapporte La Nation. Dans tous les cas, ce journal prévient, pour le gouvernement, il est impératif que les nouvelles valeurs sur le marché ne pèsent pas sur les prix des biens et des services. Le média Página 12 n'est pas rassuré non plus. L'impact de ces mesures est incertain et ne sera connu qu'à l'ouverture des marchés ce lundi, lit-on. Le média rappelle aussi que le jour des annonces de flexibilisation du taux de change, des hausses de prix entre 20 et 30% avaient eu lieu dans certains secteurs.
Juliette Chénion pour la revue de presse. Merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. En Guyane, les élus locaux contestent donc encore et toujours les chiffres du recensement de la population.
Des chiffres que ces élus, au premier rang desquels les maires, estiment largement sous-évalués, ce qui a évidemment un certain nombre de conséquences. Reportage La Première Guyane, signé Emma Chevalier.
Selon l'INSEE, la Guyane comptait 6600 naissances en 2024 contre plus de 7600 l'année précédente. Une population qui continue de croître donc, mais plus lentement. Un mensonge, selon le député Jean-Victor Castor. Selon lui, cette faible croissance démographique serait un prétexte pour moins financer les collectivités locales. Les dotations globales de financement, dites DGF, s'appuient en effet sur le nombre d'habitants.
Les incidents sont énormes et dramatiques.
Serge Anelli, maire de Maripasoula.
Puisque notre DGF en 2021 était de 5 520 000, en 2025, 4 409 000. Ça montre véritablement la chute vertigineuse.
Le député de la première circonscription appelle les élus à s'unir pour proposer un contre-recensement.
Vous savez, à un moment donné, quand vous contestez des chiffres, à un moment donné, il faut qu'on ait globalement à l'échelle de la Guyane les moyens de présenter nos chiffres à nous.
De son côté, le président de l'Association des maires de Guyane, Michel-Ange Jérémy, a récemment écrit au directeur de l'INSEE anti-Guyane. Il demande à l'Institut de la Statistique, je cite, de réévaluer ses méthodes de collecte et d'estimation pour qu'elles coïncident mieux avec les réalités du terrain.
Un tout autre sujet, bilan plutôt positif pour la saison des croisières 2025 en Guadeloupe. Tout s'est bien passé, hormis quelques annulations en début d'année pour climat social incompatible avec le secteur de la croisière. Laurence Corentin est la responsable du service croisière au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Elle est au micro de Yanis Elie.
Depuis la fin du Covid, il faut savoir que l'industrie de la croisière est l'industrie touristique qui a le mieux rebondi. Donc depuis la réouverture de la croisière pour la saison 2022-2023, nous sommes en constante évolution. Donc cette année, nous terminons avec à peu près 290 escales. L'an prochain, en prévision, nous avons plus de 300 escales qui sont réparties bien évidemment sur l'ensemble de nos ports et mouillages. Nous aurons bien évidemment des nouveautés, des nouveaux navires qui viendront, des nouvelles compagnies qui viendront également. Durant le Sea Trade aussi, nous avons approché des compagnies soit qui ne venaient plus au niveau de la destination ou qui n'étaient jamais venus. Et pour nous, nous avons trouvé une opportunité d'aller les rencontrer pour promouvoir notre destination parce que nous sommes définitivement une destination qui plaît avec sa culture, avec sa gastronomie, avec en tout cas... Aujourd'hui, tout est réuni pour que le passager croisiériste, quand il descend, puisse profiter pleinement de son escale. La Caraïbe est le premier bassin mondial de la croisière. Il faut le savoir, nous sommes au centre de la Caraïbe, donc nous avons aussi un emplacement stratégique.
Bon après-midi, Clotilde. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Il est presque 13h30 en temps universel. On se quitte rapidement avec une petite musique pour terminer. Ibeyi et la Mala, mes boys sur RFI.
Me tocas y me hunden las olas y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Recuérdala.
Maïbeye et la Malin. Un petit extrait, merci à Tiffany Menta qui était à la réalisation, Chantal Leroux à la rédaction en chef. Dans un instant sur RFI, de vive voix avec Pascal Paradou.
RFI, la sélection du mois. Anna Magidson. Koutou et Pongo.
RFI.